vivre ensemble. Tous les mercredis et dimanches, de 10h à midi.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien, nous sommes dans Vivre Ensemble, oui, pendant 2 heures. Et pour cette première heure, nous allons refaire une émission sur la santé avec le docteur Pascal Duraud. Bonjour Pascal.
Bonjour, je suis Pascal Duraud, je suis médecin généraliste à Vénissieux et je suis secrétaire de la communauté professionnelle territoriale de santé de Vénissieux-Saint-Front.
Et on vous retrouve pour la deuxième fois, pour cette deuxième épisode, où nous allons parler des infections respiratoires hivernales. Et comme nous l'avions expliqué la dernière fois dans ces émissions santé, on a vraiment un projet pédagogique, informatif. Donc on va essayer de dire les choses très simplement et de donner des définitions pour que les gens s'y retrouvent un peu entre qu'est-ce que c'est qu'un microbe, un virus, une grippe, une bronchite, etc. Alors, on va reparler un peu du CPTS. Vous avez dit que vous étiez président du CPTS.
Secrétaire. La présidente, c'est Laetitia Bouillot, qui est infirmière. Elle habite Saint-Priest.
On lui fait un petit coucou, elle doit nous écouter. Alors, qu'est-ce que c'est que le CPTS ?
Alors, les CPTS, aujourd'hui, couvrent 80% du territoire et de la population française, sont les communautés professionnelles territoriales de santé. C'est-à-dire que lorsque l'État, l'assurance maladie, avait besoin de parler avec les professionnels de santé libéraux, c'est-à-dire votre docteur, votre infirmière, votre pharmacien, ils n'avaient pas de représentation territoriale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on dit il y a un hôpital à Saint-Priest, l'hôpital privé de l'Est lyonnais, HPEL, on voit à peu près le territoire que couvre l'HPEL, et donc du coup, s'il y a des consignes de santé, des programmes de santé, ils peuvent les décliner. Par contre, avec les professionnels de santé des territoires, c'est plus compliqué parce qu'il n'y avait pas de système de représentation. Donc aujourd'hui, on a mis un système de représentation, c'est-à-dire qu'on est parti de ce que les professionnels de santé avaient besoin pour exercer mieux, et on essaie d'appliquer ce qu'ils nous demandent, et après on essaie d'appliquer aussi ce que l'assurance maladie nous demande, et avec lesquels on a des sortes de contrats. Et l'assurance maladie nous dit, si vous atteignez cet objectif, moi je vous donne des sous, et ces sous, ça nous permet d'embaucher des personnes qui vont faire tout le travail de coordination, de relevé, que les professionnels de santé ne savent pas bien faire, et n'ont pas beaucoup de temps de faire. Pour se consacrer aux soins, il vaut mieux qu'il y ait des gens qui s'occupent de faire des rapports à l'assurance maladie, et nous, on s'occupe du soin.
Donc c'est un réseau de professionnels de santé territorialisé,
voilà.
Et en lien avec l'assurance maladie, ce qui permet davantage d'avoir un peu de recul aussi sur votre profession.
Oui, alors donc aujourd'hui, par exemple, nous, je prends le territoire de Vénissieux, si on regarde Vénissieux-Saint-Front, puisqu'on est sur les deux territoires, ça représente environ 400 professionnels de santé qui exercent ce qu'on appelle en mode libéral. Il y en a 300 qui adhèrent à l'association, on espère aller à 400 bientôt. Et le problème de santé principal à Vénissieux, le numéro 1, c'est le diabète. Il y a 60% de plus de diabète que dans le reste de la métropole.
Ah oui.
Mais le deuxième problème de santé, ce sont les affections respiratoires. Il y en a 40% de plus que dans le reste de la population. Alors, pour multiples raisons, on en parlera, mais c'est bien aujourd'hui, nous, on essaye de traiter les problèmes de santé publique avec la participation des acteurs libéraux qui, jusqu'à présent, étaient uniquement dans un soin individualisé. Il n'y avait pas une démarche de santé publique dirigée vers cela.
D'accord. Donc aujourd'hui, dans ce deuxième épisode sur la santé, on va parler des infections respiratoires hivernales. Alors, vous avez un stagiaire, Isdine, qui nous a fait un petit micro-trottoir. On va commencer par ça pour se mettre dans l'ambiance. On va écouter les personnes que vous avez interrogées.
Bonjour.
Bonjour.
Avez-vous été malade cet hiver ?
Oui.
De quoi ?
J'ai eu une grippe. J'ai donc attrapé froid. J'ai eu une grippe, du coup, j'ai eu le nez qui coule, un petit peu de fièvre et la toux aussi.
Oui, plusieurs fois d'ailleurs. J'ai eu la grippe.
Oui, un petit rhume.
Ouais, une grippe.
Et est-ce que vous avez pu consulter ?
J'ai consulté que quand ça s'est aggravé.
Oui, je suis allée voir mon médecin.
Non, je suis pas parti consulter pour un petit rhume. Je me suis dit que j'étais pas, enfin, il y avait pas d'intérêt, quoi.
Ouais, j'ai consulté mon médecin.
Et quel a été le diagnostic ?
J'avais une petite grippe, quoi. J'ai une bronchite.
Eh ben, j'avais bien une grippe et une bronchite.
Quel a été le traitement ?
Je crois que c'était des antibiotiques, le sérum pour le nez et du doliprane. Et puis, c'est tout.
J'ai eu beaucoup de traitements. J'ai eu des antibiotiques et également du doliprane.
Il m'a donné des médicaments, c'est des comprimés, de l'éprane.
Ouais.
Ouais.
Du coup, des antibiotiques ?
Ouais, des antibiotiques, ouais.
D'accord. Et connaissez-vous les antibiotiques, c'est pas automatique ?
Non, je connais pas.
D'accord.
Eh bien non. C'est quoi ?
Non.
Merci.
Vivre ensemble.
C'était donc les personnes que Isine est allée interviewer. Alors, on se rend compte que les gens sont assez souvent malades, oui, ils le disent, effectivement, grippe, mais des fois, ils mélangent, hein, ils mélangent bronchite, grippe, finalement, ils sont allés voir le médecin, mais ils ne savent pas trop, voilà. Alors, on peut déjà, dans un premier temps, essayer de mettre un petit peu d'ordre dans toutes ces affections respiratoires ou ORL hivernales.
Ouais. Alors, les affections respiratoires, c'est tout l'arbre respiratoire, c'est-à-dire ça commence par le nez, il y a la gorge, il y a ensuite le larynx, c'est-à-dire avec quoi on parle, ensuite il y a la trachée, ensuite il y a les bronches, et ensuite il y a les poumons. Hein. Donc tous ces différents petits chemins que les bactéries et virus prennent parfois, ce qui nous explique. Grosso modo, il y a un certain nombre d'affections. Si je commence par le nez, beaucoup des affections commencent par le nez, parce que c'est un comptage de personne à personne. C'est-à-dire vous rencontrez une personne, vous lui parlez, il y a une sorte d'aérosol autour de la personne malade d'environ 9 mètres. Hein, donc attention, je veux dire, c'est pas « oh ben je me suis tenu à 1 mètre, hein, ça suffit pas ». Et dans cet aérosol, donc il y a des virus, parfois des bactéries qui peuvent passer. N'oubliez pas que la deuxième voie de contamination, c'est les mains, parce que vous lui avez serré la main, lui s'était mouché avant, donc il a plein de virus et de microbes dans la main, et ensuite vous allez vous toucher le nez, vous allez vous toucher la bouche, et vous allez gentiment vous contaminer. Donc ne pas oublier les gestes. Oui.
On redonne la différence entre virus et microbes, bactéries.
Voilà. Alors, un virus, c'est un être qui n'est pas capable de vivre par lui-même. Il a besoin de rentrer dans vos cellules, de se parasiter votre code génétique, de se faire reproduire par vos cellules et jusqu'à ce que les cellules finissent par mourir, qui éclatent. Et là, c'est les symptômes que vous recevez parce que toutes ces cellules éclatent. Et ensuite, il continue son chemin de cellule en cellule et en augmentant sa réplication.
Voilà. C'est un petit parasite qui va utiliser les cellules, en fait, pour vivre et se reproduire.
Voilà.
Il ne peut pas se reproduire tout seul, comme les bactéries.
Voilà. Mais par contre, ils ont une capacité de résistance qui est assez importante dans l'air, qui est de l'ordre de quelques heures à quelques jours, quand même. Hein. C'est quelques heures, généralement. Hein. C'est-à-dire que il n'y a pas une très grosse contamination, comme on l'a bien vu aussi avec le Covid. Hein. Voilà, c'est de l'ordre de quelques heures, 5-6 heures en dehors du corps. Deuxième maladie, sont les microbes. Alors les microbes, ce sont des êtres qui sont capables de vivre en autonomie. Et ils viennent un peu nous manger, ils mangent un petit peu, ils se servent au restaurant, ils mangent dans nos cellules, ils mangent un petit peu le sang, ils utilisent notre corps pour se nourrir et pour se multiplier, mais de façon autonome. Et donc les bactéries, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, on en a peut-être plus de 5 millions par millimètre carré, que ce soit sur notre peau. Donc essayez pas de les voir, ils sont tout petits, vous n'arrivez pas à les voir. Et on en a aussi au niveau de nos épithéliums, c'est-à-dire la muqueuse nasale, buccale, trachéale. Il y a des microbes qui sont là. On vit avec des microbes. On les appelle les microbes saprophytes. Moi, je dis toujours parce que ça profite à tout le monde. Parce que nous, on leur laisse un peu nos déchets et eux, ils nous donnent des fois des choses que nous, on sait plus fabriquer. Donc c'est un peu du commerce. Mais de temps en temps, par exemple, quand les virus sont arrivés, ils ont fait des trous dans nos défenses. Les microbes se disent « Oh ben, la porte du coffre est restée ouverte, on peut peut-être se servir. » Et du coup, ils commencent à devenir opportunistes et à déclencher des infections. Donc, on a tous des microbes en nous. Souvent, le premier symptôme, c'est une maladie virale de haute contamination. Deuxième symptôme, c'est la surinfection bactérienne. C'est assez fréquent. Donc voilà un petit peu la différence. Après, il y a des contaminations bactériennes directes. Grosso modo, c'est pratiquement qu'à l'hôpital, ce genre de choses, parce que c'est assez difficile d'avoir une contamination bactérienne directe. Ou alors, il faut un contact très proche. C'est pas comme les virus jusqu'à 9 mètres. Les bactéries, c'est pratiquement du contact. Donc effectivement, si vous vous embrassez, si vous faites le baiser chinois avec le nez, là, vous allez pouvoir éventuellement vous passer des microbes.
Et donc, si on reprend... Comme vous aviez dit tout à l'heure, de haut en bas, le nez.
Alors ensuite... le nez, ce sont les rhinites. Donc on appelle ça, j'ai un rhume. Il y en a qui parlent de sinusite. Alors les sinusites, ce sont des cavités qui sont à l'intérieur du massif facial. Donc juste au-dessus des dents, les principales, les sinus maxillaires, et juste au-dessus des yeux, les sinus frontaux. Lorsque la muqueuse de l'épithélium nasal gonfle, ces cavités n'arrivent plus à se vider et à ce moment-là, on a des sinusites. Ça se traduit par des douleurs, parfois de la fièvre, ouais. Et principalement des douleurs, notamment quand on bouge la tête, parce que dedans il y a du pus. Donc quand on balance la tête, ça fait mal. Donc ça, c'est tout ce qu'on appelle les rhinites, les rhinosinusites, sont souvent d'origine virale. Pour les rhinites, on parle aussi des virus qui sont en cause. C'est la grippe, c'est le Covid, c'est l'écorrhiza, bien plus bénin, hein, ça dure 2-3 jours. Donc grosso modo, vous avez le nez qui est bouché, le nez qui coule, vous avez parfois de la fièvre. Bon, c'est une rhinite, c'est pas très grave, ça, la plupart du temps ça passe. Les complications, c'est s'il y a d'atteinte des autres éléments. Si je descends après, au niveau de la gorge, vous avez des résidus amygdaliens qui sont des organes de défense de l'organisme jusqu'à l'âge de 3 ans. Ces organes produisent des anticorps de surface, des sortes de missiles à très courte portée qui empêchent les microbes de venir nous attaquer. Mais à partir de l'âge de 3 ans, ils commencent à avoir moins d'importance et jusqu'à 9 ans, et après, ils servent plus. Du coup, ces résidus d'amygdale qui n'ont plus de capacité de défense, c'est comme des forts qui sont vides, ils peuvent servir à nos ennemis bactéries à se mettre dedans. Et là, c'est principalement... c'est 50-50. Il y a 50% des infections qui peuvent être virales au niveau de la gorge, des angines. Ça, c'est surtout les enfants. Et 50% qui sont plutôt des bactériennes. Alors, les bactéries... Donc, il y en a une qui nous embête, parce que les autres, elles, ça fait mal, mais il n'y a pas de problème de santé. C'est le streptocoque. Le streptocoque est un germe qui a l'habitude de s'habiller avec les petits débris de peau qu'on a, et du coup, on n'arrive plus à l'identifier. Donc, aujourd'hui, tout le traitement contre les angines vise à détruire les streptocoques. C'est pour ça qu'on vous fait un test dans la gorge, pour regarder si c'est du streptocoque. Si c'est pas du streptocoque, on ne vous traite pas aux antibiotiques, parce que ça va passer. Et c'était la phrase, les antibiotiques, c'est pas automatique, c'est moi qui l'ai inventé, celle-là, donc j'en profite.
Oui, et Donc, on en profite pour dire que donc, le streptocoque est une bactérie et comme toute bactérie peut être sensible aux antibiotiques, alors que les virus ne le sont pas. Sur le plan thérapeutique, c'est totalement différent.
Alors les virus, non, ça ne fonctionne pas avec les antibiotiques. Ça ne sert à rien de donner un antibiotique sur une maladie virale. Au contraire, vous allez développer des plasmides de résistance, c'est-à-dire des sortes de codes secrets avec vos bactéries qui sont vos copines à vous, mais elles n'aiment pas les antibiotiques, donc elles se défendent comme en mettant des petits codes, en disant « Ah ben j'ai compris comment on peut résister à cet antibiotique », et elles sont capables de se le passer entre bactéries. D'ailleurs, un streptocoque peut passer son code à un Escherichia coli, on évite aujourd'hui de donner des antibiotiques quand il n'y en a pas besoin. Parce que même entre espèces différentes, elles se le transmettent. Et ça peut venir d'une espèce qu'on a dit, ça profite à chacun d'avoir des bactéries, mais ça peut être aussi, elle peut le transmettre à un pathogène.
Bon, ça profite, ça s'écrit pas tout à fait comme ça. Hein. C'est S-A-P-R-O-P-H-Y, c'est
oui.
ça?
Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, moi j'aime bien que les gens comprennent à quoi se dire.
On s'en souvient bien comme ça. Mmh. Alors on continue, donc on a parlé du nez, coryza, rhinite, des angines. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Les trachéites?
Alors, avant il y a le larynx.
Le larynx?
Alors le larynx, c'est ça, je ne peux plus parler.
Et laryngite?
Je ne peux plus parler, c'est parce que j'ai les cordes vocales qui sont enflammées. Donc les cordes vocales, elles produisent du son parce que les deux cordes se touchent. Avec une vibration, et quand c'est tout gonflé parce qu'il y a un virus la plupart du temps qui a touché ça, on va avoir un œdème, et du coup les deux cordes vocales ne sont plus en face, elles ne sont plus capables de produire de la vibration. Bon, les laryngites, c'est embêtant, c'est parfois un peu douloureux. Chez l'enfant, ça peut être embêtant, la laryngite, parce que comme ils ont un petit passage d'air, si ça gonfle à l'intérieur, le passage se ralentit. Et à ce moment-là, les enfants font des laryngites qu'on appelle striduleuses. Donc, c'est la laryngite striduleuse, pour nous, c'est effectivement souvent un motif de consultation en urgence, parce que les enfants tous, ils ont ce qu'on appelle une toux de petit chien qui aboie. Comme ça.
C'est très bien, le petit chien qui aboie.
Les enfants ont du mal à inspirer, c'est-à-dire ils ont du mal à gonfler les poumons. Du coup, comme ils ont du mal à gonfler leurs poumons, il y a des creux qui apparaissent entre leurs côtes, dans les creux des clavicules, ce qu'on appelle le tirage. Et en fait, cette gêne respiratoire, elle est très sensible à la cortisone. Là, on utilise la cortisone pour soigner. Quand on n'a pas de cortisone, en fait, il y a une partie de la maladie qui est les muscles du larynx sont serrés. Et en fait, quand on respire de la vapeur d'eau, vous savez, on a parlé de la vapeur d'eau la dernière fois, la vapeur d'eau permet de relâcher ses muscles. Et du coup, d'un seul coup, l'enfant se met à plus tousser, à ne plus être en panique respiratoire et d'être bien.
Très bien. J'imagine que l'épisode suivant, ça va tomber dans les poumons, comme on dit. Mais auparavant,
il faut qu'on parle quand même de deux choses. Nous, on est dans le sud de Lyon, ici. Donc, on a le droit à tous les pots d'échappement de la ville de Lyon, les fumées des immeubles, des usines qui nous arrivent dessus. Plus, on est juste avant la campagne, on a tous les pollens des champs agricoles. Donc, dès que c'est en Luvant, le vent du sud, on reçoit les pollens. Dès que c'est le vent du nord, on reçoit les effluents de la ville de Lyon. Donc on a un taux d'allergie qui est très important.
Mais c'est pas forcément hivernal. Parce que les pollutions...
Mais alors si, c'est hivernal. Parce que le chauffage, il est hivernal. Et vous savez qu'une bonne partie des problèmes viennent des microparticules et qui sont développés par les chaufferies et le chauffage, et particulièrement le chauffage au bois.
Donc ça aggrave tout.
Oui.
D'accord. Alors, on va faire une petite pause... musical. Et puis ensuite, on écoutera une interview. Vous êtes allé interviewer un pneumologue, Patrick Mas, qui va nous parler plus des affections pulmonaires. On va écouter Pour un souffle de vie. Pour un souffle de vie, c'est un clip qui a été réalisé par un collectif d'artistes, de patients, de médecins, de structures diverses. Bon, c'est autour du cancer du poumon, mais c'est une jolie réalisation. Alors on écoute Pour un souffle de vie.
bien. Tu respires mal, c'est pas normal. Nous, ses ennemis, le connaissons bien. Ce putain de crabe, du pur venin.
Sur un souffle de vie. Alors, on est toujours avec Pascal Duraud et on parle des infections pulmonaires saisonnières. On a essayé d'expliquer et de donner quelques définitions. On va maintenant écouter une interview que vous avez faite auprès d'un de vos collègues, Patrick Mas, qui est pneumologue. Qui est dans votre CPTS
à l'hôpital Porte du Sud, dans notre CPTS, et avec lesquels nous commençons à monter un réseau pour le dépistage de la bronchite chronique avec la CPTS de Vénissieux, et de Saint-Fons, et de Saint-Priest, et de Lauzon.
Voilà, donc on va écouter Patrick Mas, qui va nous parler un peu plus des infections pulmonaires. On l'écoute.
Bonjour, Patrick Mas, vous êtes pneumologue à Vénissieux. Je vous laisse la parole.
Oui, voilà, donc tout à fait. Pneumologue à l'hôpital des Portes du Sud, donc à Vénissieux, effectivement, à la frontière Vénissieux, Saint-Fons, enfin tout ce quartier, tout ce qui est Fezzin, surtout tout ce quartier local de l'hôpital, avec qui, bah voilà, on travaille en bonne collaboration avec le CPTS de Vénissieux, notamment pour plusieurs liens ville-hôpital.
Alors, l'hiver arrive et il a remis son manteau blanc. Et ça tousse et ça crache et c'est un peu la panique. Donc, il y en a des gens qui nous disent « Oh, j'ai fait une bronchite, ou j'ai fait une bronchopneumopathie, ou j'ai fait une pneumonie, ou j'ai fait une pleurésie, docteur. » C'est quoi toutes ces maladies qui touchent nos poumons?
Alors, globalement, c'est des maladies, pour la plupart de ces pathologies-là, des pathologies qui sont finalement de l'infection. Infections qui peuvent être de plusieurs types, des types virales ou bactériennes, et des infections qui sont plus ou moins graves et qui tombent plus ou moins profondément dans le poumon. La bronchite, ça touche plutôt les bronches, donc il n'y a pas vraiment de foyer d'infectieux dans le poumon en lui-même. Bronchopneumopathie, c'est un peu un germe, c'est pas un terme général pour dire une pathologie des bronches, et la pneumonie, c'est en gros une infection qui touche le poumon en lui-même, donc un peu plus loin que les bronches. Et ça, effectivement, elles sont de différentes origines. Comme je disais juste avant, en hiver, une bonne partie d'elles, ça reste quand même des origines virales. La plus connue du moment, ça reste le Covid ou la grippe, mais il y en a beaucoup d'autres. Et parfois, c'est des infections bactériennes ou parfois les deux.
Ah, on peut avoir les deux.
Tout à fait. Le virus peut donner ce qu'on appelle une fragilité dans le poumon, et puis la bactérie se greffe sur le virus, et du coup ça donne deux infections en une qui se traite naturellement, c'est-à-dire le virus, et l'autre où on a besoin des antibiotiques.
D'accord. Alors, est-ce qu'il faut, chaque fois qu'on est malade, est-ce qu'il faut faire une radiographie pulmonaire?
Alors, je dirais non. Non, il faut rester déjà clinique. En premier lieu, toute infection, qu'elle soit virale et bactérienne, commence un peu de la même manière, au final. C'est des signes de fièvre, de frissons, de fatigue, plein de choses. Ce qui discerne beaucoup entre le virus et la bactérie, c'est que le virus, au bout de 3-4 jours, 3 à 5 jours, on commence à aller mieux spontanément sans rien faire. C'est le principe de, on a des frissons, on a le nez qui coule, on n'est pas bien, on touche, on crache un peu sale parce que le nez est pris, parce que le virus est tombé un peu dès les bronches, et puis au bout de 3 à 5 jours, ça va mieux. Enfin, la bactérie, l'histoire est un peu différente, c'est-à-dire que le début est pareil, puis au bout de 3 à 5 jours, la situation, elle ne s'améliore pas comme on veut. On est plus fatigué, on crache souvent plus sale, plus vert, on est moins bien, on a un vrai coup de massue sur la tête. Et puis, c'est à ce moment-là où, je pense, l'alerte médecin traitant doit se faire. Et à partir de là, en fonction de l'examen clinique, en fonction de l'auscultation, en fonction de l'histoire de la famille, si tout le monde est malade en même temps, si personne n'est malade, si plein de petites choses, on va ou non à la radio. La radio reste un examen simple, facile d'accès. Donc, en tout cas, en cas de doute, c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement.
Et qu'est-ce qu'on a vu cet été? C'était quoi le défilé depuis le mois de décembre de tous ces malades?
Alors, effectivement, je pense que on a eu un hiver déjà très virulent en termes de virus. Il y a probablement la baisse un peu des protections qu'on s'est données avec le Covid, avec moins de masques, moins attention à des infections des mains, etc. Et comme je le disais, on a beaucoup, beaucoup de virus. C'est-à-dire que, à une période, on a un peu de Covid. À une autre période, on a de la grippe. À une autre période, on a le VRS. À une autre période, on a le pneumovirus. Enfin bon, on a plein, 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 plein de virus. Et en fait, chacun vive pour soi et chacun a son petit moment dans l'année, quoi, au final. Donc, ces virus donnent quand même beaucoup de symptômes. Parfois, on les enchaîne les unes après les autres, les uns après les autres. Les enfants sont quand même des vecteurs qui sont très importants. L'école, ça fourmille de virus de tous les côtés. On les ramène à la maison Et souvent, bah, on a vraiment, c'est pour ça, une histoire familiale de maladie. Et souvent, quand on rentre dans l'histoire familiale de la maladie où tout le monde a le nez qui coule, tout le monde tousse, tout le monde a de la fièvre sur des intervalles de 3 à 5 jours, voire 7 jours, et ben ça pose vraiment la question du virus. Cette année, petite particularité, on a des bactéries qui sont arrivées, des bactéries qui sont alors bien connues des pneumologues hein, et des médecins, ce qu'on appelle des bactéries atypiques, notamment la fameuse épidémie à mycoplasme qu'on a eue dans les grandes villes, Paris, Lyon, Marseille et dans d'autres endroits, hein, et qui sont des bactéries qui répondent à des antibiotiques un peu différents de ceux qu'on donne habituellement. Ceux-là se sont retrouvés à être beaucoup plus nombreux au cours de l'hiver et ont fait probablement retarder un petit peu la prise en charge de certains patients, ce qui a fait que c'est des bactéries qui se transmettent de personne en personne et en plus qu'on a du mal à traiter parce qu'on n'y pense pas en premier lieu. Donc forcément, ça a créé des grosses épidémies et des grosses infections qui nous ont pas mal embêtés et avec des symptômes qui sont un peu plus prononcé que notre bonne vieille bactérie qu'on connaît bien. Et voilà.
Il y a des personnes qui sont plus fragiles, plus exposées que les autres?
Je dirais qu'on est tous logés à la même enseigne, mais par contre, on n'exprime pas la maladie de la même façon. C'est-à-dire qu'on rencontre les virus, les bactéries, mais quelqu'un qui est bien portant, qui est jeune, ou qui n'a pas beaucoup de maladies, ou qui n'a pas beaucoup de traitements, ou qui a de la réserve, ou plein de choses, fait que ils supportent mieux la maladie et donc s'en remettent probablement un peu plus facilement que d'autres. Par contre, effectivement, les personnes âgées, les personnes qui ont des traitements, ce qu'on appelle immunosuppresseurs, c'est-à-dire qui baissent un petit peu les défenses immunitaires, ceux qui ont plusieurs maladies qui font que ça peut décompenser des maladies chroniques qui créent une cascade de symptômes, une cascade de difficultés à surmonter, ce sont probablement ces personnes-là qui sont les plus difficiles à traiter, en tout cas à traiter rapidement parce qu'il faut gérer plusieurs complications les unes sur les autres. Et c'est d'ailleurs la très grande partie des patients qu'on hospitalise à Vénissieux.
Faut-il se faire vacciner et contre quoi alors finalement? Et qui doit se faire vacciner?
Alors moi, je vais avoir un discours assez général et assez préventif. Pour moi, la vaccination, elle est indispensable pour un très 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 grand nombre. Plus on est vacciné, plus on se protège et plus on protège les autres. Non, ça n'empêche pas d'attraper les maladies à 100%, on le sait, mais ça les atténue et ça permet de passer le cap un peu plus facilement. Les personnes qui, à mon sens, sont quasi obligées de se vacciner, alors même c'est pas une obligation, mais qui sont... Nous, on est dans une franche recommandation, ça reste les personnes qui sont âgées, donc personnes âgées, c'est plus de 70-75 ans, et puis des personnes qui commencent à avoir des maladies chroniques potentiellement graves, qui sont du coup des gens qui ont une fragilité supplémentaire, ce qui fait que s'ils attrapent une infection, ça peut décompenser leur maladie chronique et du coup aggraver les symptômes et aggraver leur maladie. Et ça inclut des gens qui ont des problèmes cardiaques, qui ont fait des infarctus, qui ont fait des AVC, des gens qui sont insuffisants rénaux, des gens qui sont diabétiques. Le diabète, c'est une maladie qui immunodéprime, c'est-à-dire qui baisse aussi l'immunité. Et donc, en tout cas, il y a vraiment tout un tas de personnes qui doivent se vacciner. Se vacciner pourquoi ? Pour le Covid, avec des rappels récents. Les vaccinations 2020-2021, c'est trop ancien. On n'est plus immunisé avec ces vieilles vaccinations. Donc, c'est des rappels qui sont assez réguliers. Pour l'instant, les recommandations, c'est globalement tous les 6 mois. La grippe, très importante, parce que ça fait encore beaucoup, beaucoup d'hospitalisations et même de décès chez des personnes fragiles. Et ça, la vaccination de la grippe, c'est tous les ans. Et pour le poumon, je mettrais bien volontiers aussi le pneumocoque. Le pneumocoque, qui est une bactérie qu'on connaît très bien, qui est un vaccin qui est d'ailleurs obligatoire chez les enfants et qu'on a un petit peu oublié chez l'adulte, mais qui reste bien efficace et qui permet de lutter contre les infections à pneumocoque, pneumo-poumon, donc des bactéries qui adore le poumon et qui adore du coup faire des bronchopneumopathies ou des pneumonies.
Est-ce qu'on voit encore des tuberculoses ?
Oui, on en voit encore et à Vénissieux, on en voit particulièrement, je dirais. Ça reste une pathologie fréquente. Alors, pas aussi fréquente que les virus et les mycoplasmes dont on parlait, etc. Hein, soyons pas alarmistes, évidemment. Mais ça reste une pathologie qui reste déjà très contagieuse. Donc, il faut les dépister le plus tôt possible, faire dépister tout l'entourage pour limiter le risque que d'autres personnes soient contaminées par la tuberculose et après, effectivement, bien se traiter et être bien consciencieux parce que une maladie qu'on traite très bien en France, on a presque 100% de succès sur le traitement, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ça reste des traitements qui sont longs et qu'il faut prendre vraiment consciencieusement parce que la tuberculose, elle est très maligne et elle essaie coûte que coûte de survivre. Et donc, du coup, si on ne prend pas les antibiotiques suffisamment longtemps, elle trouve un système pour résister aux antibiotiques et survivre.
Bon, on a dit beaucoup de choses. On n'a pas parlé du grand méchant loup, le tabac.
Ah là là. Alors, le tabac, c'est pas que hivernal. Ça, le tabac, c'est toute l'année. Effectivement, c'est un problème d'addiction, donc par définition difficile à arrêter. Mais on a pas mal de moyens pour prendre en charge le sevrage tabagique. Alors, on rentre dans des suivis parfois, donc on en propose dans différents endroits à Vénissieux, avec des aides médicales qui sont dorénavant remboursées par la Sécurité sociale, ce qui n'était pas le cas auparavant, ce qu'on appelle les substituts nicotiniques, les patchs, les gommes, les pastilles et plein d'autres substituts nicotiniques qui ne sont pas remboursés mais qui peuvent être des alternatives aussi pour le sevrage tabagique, plus bien évidemment tout ce qui est non médical et qui permet aussi, je pense, de très bons résultats selon les personnes. On a beaucoup de réussites grâce à l'hypnose, grâce à l'auriculothérapie, grâce à la sophrologie, grâce à plein de choses qui permettent de le sevrage. Un sevrage, si possible, le plus durable possible. Et j'anticipe peut-être la prochaine question. La cigarette électronique, oui, mais ne pas passer d'une addiction à l'autre. Donc, ça peut être une aide pour la cigarette en elle-même, mais attention, on arrive souvent à s'habituer à cette cigarette électronique et à ne plus jamais s'en passer, ce qui n'est pas forcément idéal. Moins pire que la cigarette, mais pour l'instant, on n'a pas le recul suffisant pour dire que c'est 100% inoffensif et justement, on a plutôt l'impression que malgré tout, ça crée quand même des pathologies pulmonaires. Donc, voilà, à utiliser parcimonie pour un tremplin, mais pas pour remplacer.
Bon, écoutez, merci beaucoup, hein, Dr Mas, toutes ces informations. Je pense que ça va aider un petit peu les habitants d'y voir plus clair. Puis, on se voit bientôt.
Ouais.
Merci beaucoup.
À très bientôt.
Au revoir.
De chacun à tous, de tous à chacun, avec Pluriel, tout plein de petits liens.
Et on est avec Jules qui est à la technique aujourd'hui. Merci Jules. Alors on a écouté Patrick Mas qui est un de vos collègues, qui est pneumologue. Moi j'avais juste deux questions. Le VRS et le mycoplasme, est-ce qu'on pourrait préciser ce que c'est ?
Oui, alors le virus respiratoire syncytial, c'est parce que... En fait, lui, il se contente pas de faire exploser les cellules, il crée des grosses cellules, ce qu'on appelle des syncytiums, qui lui permettent de se répliquer, mais du coup, il a deux caractéristiques. C'est que donc il a cette réaction qui est assez importante en termes d'œdème, puisqu'il a créé des plus grosses cellules, et puis deuxièmement, il est pas très immunogène, c'est-à-dire que vous pouvez faire plusieurs VRS de suite. Et c'est assez embêtant. De plus, l'infection à VRS, elle dure environ 6 semaines, ce qui est assez long en termes de pour une maladie virale. Et puis cet hiver, on a eu un petit nouveau. Alors bon, on le connaissait d'avant, mais on a été un peu surpris par l'importance qu'il avait en termes d'épidémie, ce qu'on appelait le mycoplasme. Hein, Patrick en a parlé tout à l'heure. Le mycoplasme, c'est une bactérie, mais qui se rapproche un peu des champignons. C'est un petit peu différent. Et on a eu une grosse épidémie de mycoplasme avec pratiquement pas de signe ORL précédent. Une toux qui dure très longtemps. Une bonne sensibilité aux antibiotiques une fois qu'on a identifié que c'était un mycoplasme. On utilise plutôt la classe des macrolides. Mais comme c'est pas très fréquent, ça faisait pas partie de nos schémas de première intention. Donc on était plutôt sur les pénicillines et le mycoplasme, la pénicilline, il s'en tape. Donc voilà, donc ça nous a amené un petit peu à changer nos premières intentions. On est passé plutôt à reprendre des macrolides en première intention. Et on a pu arriver. Voilà. Parce qu'il y a toujours. Vous savez, on dit bactéries, virus, puis il y a des formes un petit peu particulières. Il y a des bactéries un peu particulières.
Voilà. Bon. Eh bien, avant de continuer sur toutes ces joyeusetés, on va faire une deuxième pause musicale. On va écouter le vent nous portera par le groupe Meal Culpa Jazz.
Le vent l'emportera.
Vivre ensemble.
Toujours dans Vivre ensemble, on parle aujourd'hui des affections pulmonaires saisonnières. Donc on a écouté Patrick Mass, pneumologue, nous parler des affections pulmonaires. On avait parlé auparavant avec vous, Pascal Dureau, des infections plus hautes, comme on dit, à partir du nez, de la gorge, des angines, de la trachée, du larynx. Et moi, j'avais une question, je me demandais, les affections pulmonaires au niveau des poumons, est-ce que ça commence, parce que vous en avez un peu parlé à propos des mycoplasmes, mais est-ce que ça commence toujours pour d'autres virus ou d'autres bactéries? Ça commence toujours par des signes hauts, de rhume, de nez qui coule?
Alors, ce qu'on appelle les bronchopneumopathies, parce qu'ils commencent par des bronches, et puis après, si vous voulez, il y a une extension de la bronche vers le tissu pulmonaire. Oui, il y a une séquence de haut en bas. Les pneumopathies, ce qu'on appelle la pneumopathie, l'aubaire aiguë, qui est la définition des pneumopathies, une infection de tout un lobe du poumon, non, généralement, ça peut venir par voie sanguine, c'est-à-dire ça peut être le microbe qui passe par le sang et qui vient dans le poumon et qui contamine le poumon. Généralement, il faut se méfier d'une toux où il n'y a pas eu d'épisode rhinopharyngé avant. Il faut vraiment aller chercher le poumon, justement.
D'accord.
Le poumon, vous dis-je.
D'accord. D'accord. Donc en général, les microbes et bactéries passent par le nez, par en haut, ils donnent des symptômes. Ça tombe sur les bronches, comme on disait avant, mais il y a quelque chose de vrai. Sauf dans certains cas où ça peut passer par le sang et il n'y a pas de signe en haut. Et moi j'avais une autre question, c'est les bronchiolites.
Alors la bronchiolite, ce qu'on appelle la bronchiole, ce sont toutes les petites bronches. Donc si vous regardez... c'est comme les petites branches des arbres, hein. Le poumon, il y a les branches, c'est comme des arbres. Il y a des grosses branches, puis après il y a des plus petites branches, et puis des toutes petites, c'est ce qu'on appelle les bronchioles. Et chez l'enfant, qui a des petites bronchioles, le fait d'avoir un virus respiratoire qui va faire gonfler un peu les cellules, virus respiratoire syncytial, ça va entraîner une diminution du passage de l'air dans ces bronchioles. Et la bronchiole, c'est important parce que c'est elle qui va jusqu'à l'alvéole, qui est l'unité fonctionnelle où il y a l'échange des gaz avec le sang.
Très bien. Alors, les bronchiolites, on en a beaucoup entendu parler ces dernières années. Et on va faire le point avec quelqu'un que vous avez interviewé, qui s'appelle Laurent Vallès, qui est kinésithérapeute, et qui est par ailleurs président de la CPTS de Saint-Priest. Et on va en apprendre un peu plus sur la kinésithérapie et sur les bronchiolites et autres petites histoires pulmonaires. On l'écoute tout de suite.
Bonjour, donc on est sur Radio Pluriel et on s'intéresse aux maladies respiratoires hivernales principalement. Donc je vais vous laisser vous présenter.
Bonjour, je suis Laurent Vallès, je ne fais que de la kiné respiratoire. Je suis installé depuis une vingtaine d'années avec une équipe et on est plusieurs cabinets à ne faire que de la kiné respiratoire sur Lyon pour assurer la continuité de soins 365 jours par an, aussi bien dans le domaine pédiatrique, pédiatrique principalement, et puis également dans le soin adulte, que ce soit les gènes respiratoires à l'effort ou les encombrements récurrents ou les maladies particulières dont les adultes peuvent être atteints.
Parlez-nous un petit peu de la pédiatrie pour commencer.
Alors, la pédiatrie, on va nous parler le plus souvent de bronchiolite, puisque c'est toujours un sujet de marronnier qui revient chaque hiver. La bronchiolite, ça peut être toute l'année, mais il se trouve que c'est épidémique chaque hiver et que c'est un des éléments qui fait que notre système de soins est saturé avec un recours aux urgences excessif, mais bon, on a la charge émotionnelle de l'enfant qui respire mal. C'est pour ça que c'est intéressant de savoir quand c'est utile d'y aller et quand c'est utile de rester chez soi ou tout du moins de rester en ville et d'aller consulter son médecin généraliste.
D'accord. Il y a eu des controverses ces quelques années sur l'indication de la kinésithérapie respiratoire dans le cadre des bronchiolites. Pouvez-vous nous donner un petit peu quelle est la position un peu plus raisonnable aujourd'hui?
Alors, c'est une évolution qui est intéressante. En 2000, on a une conférence de consensus où tous les experts, s'ils soient médicaux ou paramédicaux, et les instances se sont rejoints autour d'une conférence pour parler de l'intérêt de la kinésithérapie respiratoire auprès des nourrissons, dans le cadre principalement de la bronchiolite. Alors, d'une part, c'est une bonne chose parce qu'on a peu de recommandations de bonnes pratiques dans notre profession. Et d'un autre côté, c'était probablement un peu une erreur de ne se centrer que sur une pathologie, à savoir la bronchiolite, qui est chargée d'émotions. Je m'explique. Un enfant qui siffle en plein hiver, ça peut arriver. Il peut aussi aller très bien. Il peut être malade d'autres choses. Il peut être moins bien uniquement avec une otite ou avec une autre pathologie. Il peut faire de l'asthme. Mais on a un peu résumé notre pratique d'une part à la prise en charge de la bronchiolite. Donc c'était ce qu'on appelle une démarche nosologique. On venait nous voir que si on avait une bronchiolite. Et moi, je suis plus partisan de la démarche sémiologique, c'est-à-dire de la démarche par symptômes. Concrètement, ce qui est intéressant de savoir, c'est pourquoi est-ce que les parents vont consulter les médecins? C'est les déterminants de la prescription. Ils y vont souvent parce que l'enfant, d'abord, s'alimente mal, parce qu'il est encombré, et puis parce qu'il trouve qu'il respire mal ou qu'il tousse beaucoup. Alors, dans certains cas, on peut tousser, on peut ronfler, on peut être encombré, mais pour autant, ça ne gêne ni l'alimentation ni le sommeil. Et au final, dans ces cas-là, on n'a pas forcément besoin de kinésithérapie, on a souvent besoin de lavage de nez, de bouchage, pour autant qu'on ait été éduqué pour le faire. Alors, il y a tout et son contraire là-dessus, mais globalement, ce qu'il faut retenir pour la population, c'est l'intérêt de laver le nez en mettant bien l'enfant sur le côté, à trois quarts sur le côté, d'instiller le sérum dans la narine du haut et de laisser couler par la narine du bas, de faire ça des deux côtés et de moucher. Et déjà, ça permet de rétablir une bonne partie des soucis quand la problématique n'est qu'une problématique de nez. En revanche, quand on a un enfant qui siffle, mais qui en plus a vraiment fait des efforts pour respirer et a une dégradation de son état général, à savoir une baisse de l'alimentation, une perturbation du sommeil, un aspect un peu qu'on peut qualifier de toxique, là, il est intéressant d'aller consulter son médecin. Et dans le cadre de toux nocturnes récurrentes, de quintes sèches, principalement au milieu de la nuit, là, ça vaut le coup de faire de la kinésithérapie. Si c'est qu'une toux qu'en journée, je dirais qu'un bon lavage de nez suffit. Mais dès que ça se résume à des quintes de toux nocturnes, on est dans un processus inflammatoire, à savoir bronchiolite, bronchite, asthme du nourrisson également.
Et où est-ce que les mamans peuvent apprendre à bien moucher le nez?
Alors, c'est un rôle qui est commun à l'ensemble des professionnels de santé, mais qui est également connu par les professionnels de l'éducation des enfants. En général, on a tous un peu notre recette. On a Internet maintenant qui fait le relais, qui fait la promotion chaque année d'un nouvel objet pour mieux moucher que l'année précédente. La tendance de cette année, ce sont les seringues pour pouvoir mieux laver. Et puis, il y a différents supports sur Internet qui permettent de. Et pour ceux qui n'arrivent vraiment pas, ça vaut le coup d'aller faire une ou deux séances d'éducation chez les kinésithérapeutes qui sont tous habilités à le faire et en général bien compétents en la matière.
Bon, et mais les adultes aussi tombent malades l'hiver.
Alors, c'est vrai. C'est pas tout d'être uniquement malade, c'est également intéressant. La dynamique dans laquelle on s'est inscrit depuis ce fameux Covid. Pour la petite histoire, avant, on va dire que nos cabinets de kiné respiratoire étaient envahis de bébés qui toussaient et on avait très peu d'adultes. Ce qui était paradoxal, puisque on avait des études qui étaient de haut niveau de preuve sur l'intérêt de soigner les adultes, mais pour autant, on n'avait pas les patients. Et le virage Covid a fait que, et les recommandations de 2019 sur le premier épisode de bronchiolite d'un enfant de moins d'un an, où on a eu le sensationnalisme de la presse qui a dit plus de kiné, ça ne sert à rien, c'est dangereux. Enfin, ils ont un petit peu détourné le sujet. J'en reparlerai un petit peu après. Mais on a eu un virage, on a eu une prise en charge, une prise en considération de ces patients adultes. Aujourd'hui, on est envahi de prescriptions d'adultes, et c'est très bien puisque ça correspond à un besoin. Et les kinésithérapeutes occupent une place notamment sur aussi bien le désencombrement que sur la rééducation je dirais, à l'effort, puisqu'on a beaucoup de gens qui sont essoufflés au moindre effort. Et ça, c'est pas immuable, on peut y faire quelque chose. Alors, c'est souvent lié aussi à une part de sédentarité. Et c'est là où l'ensemble des kinés peuvent jouer leur jeu, jouer leur rôle, pardon, et également les APA et tous les professionnels du sport, puisque globalement.
Les APA, c'est les. Faut traduire les APA.
Les APA, en fait, sont là pour faire comment ça s'appelle,
les animateurs, animateurs d'activité physique à pratique adaptée.
C'est de l'activité physique adaptée. Mais ils sont là, en fait, pour faire du sport santé et puis pour promouvoir l'activité physique. Pour faire simple, quand vous avez une baisse d'activité physique ou une sédentarité, vous avez une fonte musculaire qui s'engage. Et les muscles qui vous restent font le travail, mais vous demandent de rembourser en oxygène. Ça crée une dette en oxygène importante. Donc, on commence à s'en rendre compte quand, au bout de deux escaliers, on est très essoufflé. Et en fait, la simple reprise de l'activité physique déjà améliore considérablement les choses.
D'accord. Bon, écoutez, merci beaucoup. Laurent, on a fait un peu le tour du sujet. Vous voulez rajouter un petit quelque chose?
Oui, je voulais juste revenir sur le sensationnalisme des recommandations, parce qu'on a un peu entendu tout et son contraire. En novembre 2019, la HAS, qui s'appelle la Haute Autorité de Santé, qui est un organisme, une société savante qui est très importante, puisqu'elle promeut les bonnes pratiques et le bon usage des soins auprès des usagers. Elle participe également à l'information du grand public et à améliorer la qualité de l'information médicale, avait établi un certain nombre de recommandations, notamment dans le cadre de la première bronchiolite d'un enfant de moins d'un an. Et ce qui était sorti de cette recommandation, c'est que pour un premier épisode d'un enfant de moins d'un an, on ne recommandait pas systématiquement la kiné respiratoire. Là-dessus, on est parfaitement d'accord. La presse s'était emparée du sujet et avait globalement dit la kiné respiratoire, ça sert à rien, ce qui était vraiment une erreur fondamentale. On a un rôle, nous, de surveillance, on a un rôle de vigie thérapeutique, on a des médecins qui nous font confiance, on a la population qui nous font confiance depuis des années, c'est pas pour rien. On a une petite baisse de prescription de la part de l'incompréhension des prescripteurs d'une part, et puis de la part de l'incompréhension du public. Puis suite au Covid, on va dire que ça s'est normalisé petit à petit. Et on nous a toujours objecté le fait qu'on n'avait pas d'études qui avaient prouvé l'efficacité de la kiné respiratoire. Je dirais qu'on n'a pas pris le problème dans le bon sens. On n'a pas non plus d'études qui prouvent que ça ne sert à rien. Et si on prend le retour de la population ne fait pas confiance pour rien. Quand on vient chez nous avec un enfant qui dort mal, qui mange mal, et qui dès le lendemain se sent mieux, je pense que c'est un argument de poids. Après, on a des grosses difficultés à pouvoir monter une étude en ville, puisque qui va la payer? Ça va pas être des kinés libéraux, ça va pas être notre profession. Donc, ça va être difficile de mettre en place des études de qualité. Et l'étude à laquelle qu'on nous a opposé, en fait, est une étude hospitalière, c'est-à-dire qu'elle correspond à 3% des enfants atteints de bronchiolite. Et les 97% autres qui ne sont pas hospitalisés, eux, peuvent faire de la kiné respiratoire parce qu'ils ne sont pas trop fatigables. Par contre, tirer des conclusions sur une population que nous ne nous soignerions plus, puisqu'on demanderait qu'elle soit hospitalisée, ça n'avait pas beaucoup de sens. J'aimerais ajouter juste une chose.
D'accord.
C'est une question qui a été beaucoup posée par les patients cette année. Est-ce que je dois ou est-ce que je dois pas faire? Est-ce que vous me recommandez le fameux vaccin pour la bronchiolite? Il faut savoir que ce n'est pas un vaccin, que c'est un anticorps. Et que il faut en faire la promotion, puisqu'effectivement, c'est ça qui va vous protéger du virus le plus sévère, c'est-à-dire celui qui a le plus de probabilité d'hospitaliser votre enfant. Et donner un anticorps à un enfant pour le permettre de se défendre du virus le plus sévère sur la bronchiolite, je pense qu'on ne peut pas en faire l'économie. Voilà, donc je tenais à le dire aujourd'hui.
Merci beaucoup. Alors, le vaccin, il y en a un qui vient de sortir, mais pour les plus de 65 ans, pour le VRS, et je pense qu'on aura peut-être un vaccin pédiatrique, un vrai vaccin pédiatrique dans un futur proche. Et puis pour les études, eh ben, on va peut-être s'y coller au niveau de la CPTS, hein? Pourquoi pas, Laurent?
Eh bien, j'aimerais bien.
Oui, ça
Ça fait partie
marche.
des choses à faire. Merci en tout cas.
Merci beaucoup et puis bonne continuation et merci du travail que vous faites pour les patients, les jeunes patients et les plus âgés. Merci, au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Vous écoutez Radio Pluriel, la radio de la diversité.
C'était Laurent Vallès, kinésithérapeute. Alors, on a appris beaucoup de choses dans cette interview. Est-ce qu'on pourrait repréciser les histoires de vaccins dont il parle à la fin ?
Oui, alors aujourd'hui, tous les nourrissons reçoivent, on va parler que des infections respiratoires, hein. Tous les nourrissons reçoivent une vaccination contre le pneumocoque, qui cause 50% des pneumopathies, des infections du poumon, mais aussi des méningites, aussi, qui sont parfois méchantes. Et une autre maladie, c'est la coqueluche. Une coqueluche qui est aussi une maladie respiratoire, on n'en a pas parlé, mais aujourd'hui, grâce à la vaccination, elle a pratiquement disparu. On la retrouve que chez les personnes âgées qui, finalement, ont oublié leur immunité 50-60 ans après. Mais ça, c'est un des succès de la vaccination. Et donc aujourd'hui, on recommande quand même pour les personnes fragiles, parce que je crois qu'il faut être raisonnable, on ne va pas vacciner l'argamanu, mais aujourd'hui, la grippe, à partir de 65 ans, la vaccination du Covid, il faut la refaire tous les 6 mois. Moi, je ne vais pas tarder à refaire la mienne. J'ai plus de 60 ans.
Très bien.
Et puis, je suis un peu trop gros, alors je fais partie des fragiles. Il y a la vaccination, donc on vient de l'évoquer sur le VRS, mais pour aujourd'hui, elle n'est pas encore remboursée. Donc là aussi, c'est pour les patients de plus de 65 ans. La vaccination contre le pneumocoque qu'on a fait chez l'enfant, on peut la refaire chez l'adulte, parce qu'en fait, il n'y a pas très longtemps qu'on l'a fait chez l'enfant. Ça fait une quinzaine d'années qu'on l'a fait chez l'enfant. Donc chez l'adulte, on peut faire une vaccination. D'ailleurs, on fait le premier vaccin le même que l'enfant, et après on fait un rappel pour le pneumocoque. Donc ça, c'est pour toutes les personnes fragiles de plus de 50 ans et les personnes de plus de 65 ans. Alors les fragiles, c'est les diabétiques, les gens qui ont des maladies de cœur, les gens qui ont des maladies bronchiques, les pulmonaires. Donc il ne faut pas hésiter à le faire parce que c'est un vaccin qui est pratiquement, il n'y a pas d'effet secondaire. C'est un vaccin qui est très purifié et dont la durée de validité est de 5 ans. Voilà. Donc ces vaccins, c'est toujours utile parce que bon, c'est un geste de prévention. Et de manière générale, il vaut mieux essayer de penser avant d'être malade à ce qu'il faut faire plutôt que d'attendre d'être malade.
Très bien. Alors, l'heure avance. On parlera à la fin des mesures préventives ou comment on peut se soigner un peu plus par soi-même. Et il y a quand même une question importante, c'est à partir de quand il faut s'inquiéter et à partir de quand il faut consulter ?
Alors, je crois qu'il faut une pathologie bénigne. Bon, vous avez le nez qui coule. Vous pouvez vous moucher d'abord. Hein. C'est bête à dire, mais il y a beaucoup de gens qui reniflent et qui se mouchent pas. Donc, vous pouvez vous moucher. Vous pouvez vous laver le nez avec du sérum physiologique, comme les bébés. Vous pouvez inhaler de la vapeur d'eau. Ça permet aussi d'avoir une action anti-inflammatoire au niveau de l'épithélium nasal. On l'a déjà évoqué. Bon, il y a des petits appareils en plastique qui coûtent 3 ou 4 euros en pharmacie. Et vous mettez de l'eau bouillante. Vous n'avez pas besoin de mettre des huiles. Si vous voulez en mettre, vous en mettez. Après, il y a des gens qui sont allergiques. Donc, moi, je dirais, mettez de l'eau. L'eau, c'est déjà bien. L'eau, c'est la vie. Si jamais vous voyez qu'effectivement, vous commencez à avoir des douleurs au niveau des sinus, là, il va falloir consulter. Parce qu'effectivement, une sinusite, ça peut être très pénible à vivre. Si effectivement, les choses descendent au niveau de l'appareil respiratoire, donc le larynx, la trachée, ça devient gênant. Et généralement, vous pouvez consulter si effectivement, ça devient très gênant. Sachant que, grosso modo, vous attendez 3 à 4 jours, vous voyez si ça ne passe pas. Si ça commence à passer, c'est cette maladie virale qui va passer spontanément. Et donc, en fait, souvent, les gens viennent nous voir, mais ils sont déjà guéris. Donc, soyez un petit peu patients, les choses ne sont pas toujours graves. Par contre, s'il y a des éléments qui sont inquiétants, c'est-à-dire que vous n'arrivez plus à dormir la nuit, vous avez des crachats purulents, vous êtes essoufflé, quand vous montez les escaliers, ben vous montez un étage de moins avant au nom de vous arrêter. Ces éléments-là, il faut consulter parce qu'effectivement, ça veut dire qu'il y a quelque chose sur lequel il y a besoin d'un traitement.
Très bien. Quand on a mal, quand on est gêné, quand on n'a plus de souffle, etc. Donc là, il faut consulter. Donc vous avez parlé effectivement des petits gestes qu'on pouvait faire soi-même, les aérosols, le mouchage. Et puis, de façon générale, moi j'ai une question. Alors pourquoi on est plus malade en hiver sur le plan pulmonaire ou ORL ?
Alors il y a plusieurs raisons. Et une raison déjà, c'est que lorsque la muqueuse nasale et respiratoire est exposée à une température basse, la température des cellules descend et elles se mettent au repos. Elles ne font plus leur travail d'élimination ciliaire des débris, de défense contre les bactéries. Et donc le refroidissement de l'air qu'on respire, il est préjudiciable à notre santé. Donc on peut vous recommander le port d'une écharpe, la cagoule, des solutions qui sont le cache-nez, comme on dit, parce qu'effectivement, l'air que vous respirez à ce moment-là, il est préchauffé par votre thorax. Et vous allez respirer plus d'air qui est préchauffé, et ça vous évite d'avoir plus facilement des maladies respiratoires. Deuxièmement, l'hiver, on n'est plus confiné, donc on est à l'intérieur de la maison. Et donc on a les aérosols, les petits copains qui sont dans la même maison que nous, qui peuvent être contaminants. Et puis, il y a un élément dont on peut parler, c'est que l'air intérieur, il n'est pas toujours de meilleure qualité que l'air extérieur. Ça, on en parlera éventuellement après, c'est les équivalents des allergies. Parce que les allergies plus un virus... ça existe, hein, parce qu'il y a des fois des virus plus des bactéries, mais les allergies plus un virus, ça existe aussi.
Et donc l'air intérieur, il est pollué par quoi ? À cause du confinement ?
Alors, la peinture que vous avez utilisée, le meuble que vous avez racheté, certaines plantes, vos animaux, les moisissures, les acariens qui vivent de nos petits déchets, ils font des petits cacas, et ces petits cacas, ils sont très allergisants. Donc c'est des sortes de micro-araignées, donc voilà. Et puis il y a des fois des blattes qui ont aussi des déchets qui sont allergisants. Donc dans les maisons, on est exposé en fait à beaucoup d'allergènes. En plus, l'air qui est à l'intérieur de la maison, il était à l'extérieur avant, donc il a aussi peut-être pris la pollution de la ville, les pollens du champ d'à côté, l'ambroisie du mois d'octobre, enfin voilà, des choses comme ça.
Oui, ça fait penser qu'on ne peut pas arrêter de respirer. Hein. Quand il y a des choses qui ne sont pas bonnes à manger, on peut les éviter, mais respirer, on ne peut pas. Donc on prend tout, les pollutions, les petites crottes des acariens, tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Vous avez parlé aussi tout à l'heure des chauffages.
Alors les chauffages, c'est sûr que les chauffages au fioul, au charbon, au bois, produisent dans l'air une pollution. Les véhicules automobiles aussi, notamment la notion des diesels, mais un peu moins les essences, mais bon, c'est important. Alors, sans doute qu'avec la réduction de la circulation, la transformation du parc de voitures, on va avoir une amélioration. Il y a encore tout un travail à faire au niveau la manière de se chauffer dans les appartements. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des chaufferies bois qui s'installent un peu partout. J'avoue que moi, je suis un peu circonspect sur ce point-là parce que moi, je travaille en face d'une chaufferie bois et je vois bien que c'est quand même que ça pollue. Bon, alors les industriels disent que non, mais on a l'habitude de ce que disent les industriels, n'est-ce pas? Et donc voilà, je pense qu'il y a vraiment encore des réflexions dans notre vie. Mais n'oubliez pas les habitats. Donc il faut aérer chez soi. Quand vous voyez des moisissures, des petites traces noires dans les angles, c'est-à-dire que vous avez une ventilation qui est insuffisante. Donc il faut qu'il y ait un système de VMC, une ventilation mécanique centralisée qui vous permet d'aspirer l'air et d'inspirer de l'air de bonne qualité. Voire, nous, compte tenu de la pollution de la chaufferie dans notre cabinet, on est en air intérieur avec... un énorme filtre qui doit faire 2 mètres cubes, qui filtre toute la pollution. Et souvent, les gens, ils rentrent dans notre cabinet, ils viennent nous voir, ils nous disent « je suis venu voir que... parce que je toussais ». Je dis « ouais, mais là, je vous en écoute, là, depuis un quart d'heure, vous n'avez pas toussé ». Il dit « oui, tiens, c'est vrai ». Oui, je sais, vous toussez parce que vous avez une allergie. Chez vous, vous n'avez pas un air filtré, chez moi, vous avez un air filtré.
Voilà. Alors, pour continuer la panoplie, il nous reste les allergies. Les allergies, c'est plutôt l'été, mais c'est aussi l'hiver.
Dans la maison, il y a plein d'allergies. Il y a les moisissures, il y a les acariens, il y a certains champignons, il y a les polluants. Peut-être que vous avez ramené un super meuble magnifique, mais en fait, il vous dégage plein de produits dans votre maison.
Et les allergies à l'extérieur, en hiver ?
À l'extérieur, en hiver, oui, il y en a. Je veux dire, en ce moment, c'est le noisetier, c'est l'aulne. Donc là, on a très bien vu le départ des allergies. Ça a recommencé il y a 10 jours, là, avec la sortie des petits pompons des noisetiers. C'est reparti. Hein. Puis les cyprès aussi. Et beaucoup de gens mettent des cyprès autour de leur maison et après, ils toussent.
Alors, il reste à parler du tabac. Oui. Laurent Vallès en a parlé un peu. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le tabac ?
Alors le tabac, c'est quand même... Je pense que si on pouvait éliminer le tabac, ce serait un gain magnifique. D'abord, n'oubliez pas que quand vous fumez, vous avez un certain problème, des problèmes de santé, c'est-à-dire que vous allez augmenter vos réactions inflammatoires, c'est-à-dire que vous aurez un rhume qui sera plus bouché, vous aurez des bronches qui seront plus sifflantes, vous aurez... parce que le tabac provoque une augmentation de la réaction inflammatoire immunitaire. Donc ça, c'est important. Ensuite, il encombre les goudrons que vous inhalez, vont encombrer vos bronches. Donc, il y a un système macrophagique, les camions poubelles de l'organisme qui sont là et qui craignent une inflammation chronique. Cette inflammation chronique, elle est responsable de la maladie qui pourvoit le plus de bouteilles d'oxygène quand vous êtes à partir de 55 ans, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive. Et ça, c'est la maladie du siècle, elle est silencieuse. Et quand vous commencez à avoir des symptômes, il est trop tard. Donc il faut être très très vigilant sur l'épissage de la bronchopneumopathie chronique obstructive. C'est d'ailleurs un des premiers travaux que nous sommes en train de lancer avec le CPTS de Saint-Priest, et on va l'étendre au CPTS du Sud de Lyon, pour faire un dépistage assez systématique de cette bronchopneumopathie silencieuse. Voilà.
Très bien. Qu'est-ce qui nous reste ? On peut parler des masques pour terminer ?
Alors les masques, vous avez tous vu, on s'est tous précipités sur les masques. Hein. On a fait des masques en tissu, on a fait des masques avec tout ce qu'on pouvait, quand on n'en avait pas avec le Covid. Alors, il faut bien avoir en conscience que le masque, d'abord, c'est pour protéger les autres. Parce que si vous voulez des masques qui vous protègent vous, il faut que vous soyez vraiment dans une espèce de... Vous soyez un masque qui est étanche, c'est-à-dire que l'air ne passera pas sur les côtés. Mais nous, ce qu'on veut, quand vous portez un masque, c'est d'arrêter la création d'un aérosol. Parce que si aujourd'hui, moi, je suis malade, le fait que je respire dans cette pièce, bah, vous serez malade aussi dans quelques jours.
Hein. Voilà. Merci.
On échange. Si je porte un masque, par contre, la création de ces micro-particules qui sont dans l'air, elle est stoppée. Donc aujourd'hui, le réflexe, c'est je suis malade, je porte un masque, je protège les gens qui me sont proches, je protège les gens qui sont dans où je rencontre, les gens qui sont au travail. Donc je peux avoir une petite maladie respiratoire, je porte un masque. C'est quelque chose qui est aujourd'hui assez difficile culturellement, parce que les gens disent il porte un masque, c'est qu'il est malade. Oui, mais en fait, il porte un masque, il pense à moi, il me protège. Et c'est valorisant de porter un masque. C'est-à-dire, j'ai un masque parce que je fais attention à vous. Voilà, j'ai une maladie qui est contagieuse. Je vous ai dit, c'est extrêmement contagieux par les aérosols. Hein. Pof, vous respirez, ben, vous dégagez du virus. Et on ne va pas porter un masque tout le temps, mais quand on est malade, porter un masque, c'est quand même une mesure de prévention. Ce n'est pas forcément le meilleur indicateur pour éviter la contamination. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la plupart des contaminations, en fait, c'est souvent par les mains. Hein, et on insiste aujourd'hui sur le lavage des mains. C'est-à-dire que quand vous avez rencontré des gens, quand vous avez été dans un lieu public, lavez-vous les mains en rentrant chez vous. Hein, ou alors un peu de gel hydroalcoolique.
Et voilà, on va terminer par cette petite mesure toute simple. Merci, Pascal Dureau.
Merci, avec plaisir.
Voilà, on a parlé aujourd'hui des infections pulmonaires. On espère qu'on a été assez clair et pédagogique, comme on a envie de l'être dans ces émissions. Merci, à bientôt.
À bientôt.
Vivre ensemble.